Bonjour et bienvenue sur Comic City, Comics Weekly, épisode 19. Voilà, je me mélange tout de suite. Troisième podcast en 3 jours.
Oui.
C'est difficile. Donc, je suis Steve et je suis accompagné de...
Mister en Ebony.
Mister, puisque c'est la VO.
Bah oui. T'as vu, moi je me regroupe pas au moins.
Ouais. Allez, non, troisième podcast en 3 jours. Ça commence à tirer un peu sur la corde, ça commence à être dur. La fatigue point à l'horizon. Lointain.
Oui, mais en même temps, ce sera le premier des trois que vous aurez, du coup.
Oui, bah oui, parce que hasard du calendrier, finalement, voilà, les choses se font comme ça. Donc, on a enregistré le spécial, puis le Comic City, puis le Comics Weekly, et l'ordre de sortie va être Comics Weekly, le spécial, et enfin le Comic City.
On fait un petit peu du panini, quoi, dans l'ordre de publication. Ouais. C'est nos maîtres à tous, donc on les copie. Bon, et bah, allez, hein, le numéro 19.
Ouais, le numéro de la semaine. Voilà. C'est donc le numéro 19, et donc c'est un numéro impair, donc c'est moi qui commence. Moi, j'ai choisi le Power Pack volume 1, numéro 19, de 1986. Scénario Louis Simonson, au dessin Brett Anderson, Scott Williams, et oui, déjà Scott Williams, encreur de Jim Lee, notamment.
Ouais.
Et à l'ancrage, Terry Austin, Scott Williams et Sam De La Rosa. Un nom que je n'ai pas entendu depuis très longtemps, Sam De La Rosa.
Power Pack, est-ce qu'ils avaient pas traduit ça par puissance 4 en français?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
D'accord. C'est pour ça que je pense au jeu puissance 4 quand tu dis Power Pack à chaque fois.
Et donc, bah, pourquoi cet épisode? C'est parce que c'est un épisode double déjà. Pour un numéro 19, on se dit, bah, pourquoi? D'habitude, c'est généralement le numéro 25, 50, ou à la rigueur, le numéro 12, parce que c'est la première année. Donc là, non, c'était simplement parce que c'est un épisode sur Thanksgiving. Et c'est surtout que c'est totalement fou comme épisode. On a un max de guests. On a les Morlocks, Beta Ray Bill, Cloak & Dagger, Wolverine, Kitty Pryde. Le tout pendant la parade de Thanksgiving de New York.
D'accord.
Et avec des ballons qui volent dans tous les sens, notamment le ballon de Kermit, hein, des Muppets Show, ou encore le Mighty Mouse. Tu sais, le dessin animé, la super souris. Hein.
Ouais, ouais.
Mmh. Voilà. Donc bon voilà, c'est un épisode complètement taré, mais drôle quoi, comme toujours.
D'accord. Alors mon numéro 19, moi, ce sera le Fantastic Four 19 de Stan Lee et Jack Kirby, donc les originaux, on va dire.
Ah, tu vas taper dans le vieux, toi.
Oui, dans le vieux, dans le très vieux. C'est de 63, donc seconde année, non, troisième année plutôt, puisque ils ont commencé en 61 les Fantastic Four. Troisième année des Fantastic Four, et c'est leur première rencontre avec Ramatut l'Égyptien. Le pharaon, et Ramatut qui va devenir en fait une incarnation de Kang, en fait.
Une des multiples incarnations du voilà. personnage. Ouais.
Voilà, l'une des multiples, on va dire même personnalités, hein, puisque c'est une des facettes du personnage, quoi.
Kang a vraiment un gros problème d'identité, un peu comme Légion, hein. Le fils de Xavier.
Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que bon, bah, en fait, au début, c'est pas censé être Kang, et puis au fait, ça sera... au fil des histoires
ce sera retconné, disons, pour en faire.
Ouais, voilà. Les origines de Ramatut seront liées à celles de Kang et ça deviendra un seul et même personnage, quoi. Simplement qu'il est à différentes époques, en fait.
Je pense pas que Jack Kirby et Stan Lee avaient pensé à ça à l'époque.
Ah, si, ils avaient tout prévu. Ils étaient plus forts que Bendis. Ils avaient prévu Secret Avengers déjà à l'époque. D'ailleurs, il y a la preuve, hein, dans Fantastic Four numéro 2, ils foutent une vache, ils font une vache scroll, ça y est, c'est
les,
ça.
Les scrolls repassés d'ailleurs dans Fantastic Four 18.
Oui. Non, mais de toute façon, ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu. Ils savent encore ce qui va se passer pour les 20 prochaines années.
Stan Lee, c'est possible, Jack Kirby, plus dur.
Oui, bon, d'accord. Mais Stan Lee, en tout cas, le sait très bien. Et oh, je suis sûr que Kirby le sait aussi, finalement.
Bien, on va attaquer les news. Après ce moment d'égarement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc les news de la semaine, Benny, je te laisse.
On va commencer par le plus important, donc la news qui a fait grand bruit cette semaine, qui a agité l'univers DC et toute la planète, c'est bien sûr l'annonce de la fin de Wildstorm, déjà d'une part. Donc Wildstorm, le label Wildstorm s'arrête en décembre. Alors bon.
Label qui était créé par Jim Lee à l'époque de la fondation d'Image.
Voilà,
en 92.
Jim Lee, exactement, en 92, et Jim Lee qui est donc maintenant qui s'occupe de la branche
de chez DC.
De la branche digitale de chez DC. Donc Jim Lee qui a accepté que de voir son studio, finalement son label, prendre fin finalement en décembre. Ah,
de toute façon, je pense qu'il n'avait pas d'autre choix que c'était soit il se barrait avec ses clics et ses claques et son label qui vend sûrement plus autant qu'avant. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles DC l'arrête.
Bah, il n'y a plus rien, quasiment.
Bah,
il y a le label Kids.
Bah, il reste quand même chez Wildstorm actuellement, sortait Authority. Il y avait encore du Gen 13, je crois. Ah, je sais plus trop en fait, parce que Wildstorm, il y a très longtemps que je ne suis plus ce qui s'y passe.
Il y avait surtout des adaptations de jeux vidéo comme Ratchet & Clank.
Ouais, on a Fringe, on a Supernatural aussi en licence. Bah d'ailleurs, c'est les licences, est-ce que va garder DC? Il va les publier bah, directement sous sa propre bannière, DC.
Voilà, c'est ça. Donc au fait, les personnages ne disparaissent pas, mais simplement si on les reverra, si on les revoit prochainement, et eh bien en fait, ce sera publié sous le label DC. Et Geoff Johns, donc lui, se veut assez rassurant puisqu'il promet de réutiliser les personnages et qu'il a des plans pour le futur. Donc peut-être qu'il va nous faire une saga Authority, nous racontant une dernière aventure d'Authority, ou peut-être un recommencement vers autre chose, je sais pas.
Mais je sais pas, moi j'ai du mal à imaginer une place pour eux dans l'univers DC propre, quoi. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux les mettre dans un label un peu à part, un sous-label DC, comme on a actuellement le label First Wave qui sort chez DC, avec Doc Savage, The Spirit. On a aussi Batman, mais c'est totalement hors continuité, c'est vraiment dans un coin propre de l'univers DC. Peut-être même sur une terre après tout, puisqu'il y a 52 terres chez DC, donc pourquoi pas une terre Wildstorm?
Pourquoi pas? Ou bien alors, comme tu le sais, donc c'est l'autre partie de la grosse news, une partie de DC s'en va sur la côte ouest. Donc au fait, toute la partie entertainment gérée par Geoff Johns, qui s'occupe de tout ce qui est adaptation ciné, séries télé, dessins animés, et également Jim Lee avec tout ce qui concerne le digital. Et donc du coup, peut-être que les personnages Wildstorm vont réapparaître sous le format digital, peut-être sur iPhone, avec des épisodes exclusifs. Ou peut-être on pourrait avoir un dessin animé par exemple, ou un long métrage Authority, ou enfin tu vois, un
Ah,
truc
ce serait
vraiment.
une animation DC Authority, ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment une putain de bonne idée.
Voilà, par exemple, tu vois, puisque au fait Geoff Johns dit qu'il a des plans, peut-être que c'est pas des plans comics, au fait, papier. Peut-être que ça concerne justement la branche entertainment qui chapeaute actuellement. Donc, tu vois, on n'en sait pas trop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Nous doute qu'on aura quelques précisions dans les prochaines semaines, parce qu'à mon avis, ils vont nous faire attendre pour savoir un peu ce qui va se passer. Déjà, je pense qu'on en reparlera en décembre, quand le label prendra réellement fin.
Alors, aussi, il faut préciser que toute la partie comics, à proprement parler, donc la partie papier, quoi, on va dire, chapeautée par Dan Didio depuis plusieurs années, reste à New York, la maison mère. Donc voilà, donc ça ne change pas, au fait, ça ne changera pas tellement les publications comics DC. Mais par contre, alors donc la news a fait grand bruit, puisqu'il y aura surtout un cut au fait du personnel de chez DC. Donc sur 250 employés, devrait y en avoir une cinquantaine qui vire, quoi.
Ils ont dit 20% d'effectifs en moins.
Oui, donc c'est je sais plus comment elle s'appelle, Diane Nelson, la présidente de DC depuis un an maintenant, qui
Qui
donc
a
a
remplacé Paul Levitz, justement.
ouais, qui a pas l'air commode, hein, dis donc.
Non.
Qui a pas, enfin quand je la lis, quand je lis les interviews elle a l'air très très corporate, quoi, très
Mais de
voilà.
toute façon, elle vient d'un milieu corporate. Elle ne connaissait pas énormément de choses aux comics. Elle sait beaucoup plus comment dire, attirée par le
Guerrière.
pognon, quoi. Voilà.
Oui, une guerrière, une warrior, une Xena.
Elle est là pour faire du blé, quoi. Enfin, faut être honnête, hein, malgré tout, le comics, c'est aussi pour faire du blé, hein. Les maisons d'édition se font
Voilà,
plaisir,
exactement.
font plaisir aux lecteurs, mais font avant tout plaisir leur compte en banque, et c'est
Et
normal, enfin.
d'ailleurs, par rapport à Wildstorm, pour la petite histoire, Paul Levitz a toujours détesté le label Wildstorm. Il détestait l'image d'Authority. Pour lui, c'était pas du super-héros, quoi. C'était
Alors que
vraiment.
pourtant, sous sa présidence, le label Wildstorm a rejoint en tout cas les imprints de chez DC. Et c'est sous la présidence de Dan Nelson que le label Wildstorm prend fin.
Oui,
Chose, c'est vraiment assez marrant.
oui,
Il avait
c'est
beau le
assez marrant.
détester, mine de rien, il leur a quand même laissé leur chance. On lui a
Ouais.
peut-être pas laissé le choix, remarque, en même temps.
Bon. Enfin bref, donc voilà où ça en est pour le moment. On vous tiendra
Chose
informé.
dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'arrêt définitif,
Ah oui,
ça va être officiel, c'est cette semaine, je crois, ça prend fin à la fin de la semaine, là, de Zuda,
oui.
le label qui était un label digital, en fait, de chez DC. Alors, moi, honnêtement, je pensais même que c'était déjà arrêté,
Oui,
Zuda
peut-être.
Comics. Je pense qu'ils vont récupérer, puisqu'ils ont déjà maintenant leur implantation sur iPad, iPhone, tout ce genre de choses, ils ont mis du temps à y venir. Bon, ils avaient fait un grand bordel quand ils sont arrivés DC, en disant, nous on fait pas comme Marvel, on donne de l'argent aux dessinateurs, aux scénaristes
Au
des
créateur, quoi,
comics, voilà, aux créateurs. Je pense que tout ce qui était chez Zuda va peut-être partir du côté digital. Donc là, ce sera à voir avec Gimli. Il va peut-être récupérer certaines des licences qui marchent le mieux. Honnêtement, je ne sais absolument pas ce qui sort chez Zuda Comics. Et je t'avouerai que ça m'intéresse pas. Mais c'est quand même con parce que c'est quand même toute une branche qui s'éteint, quoi. Donc,
Non mais
ça va
tu fais bien
sûrement
de le
faire partie
préciser.
des 50 personnes employées qui vont dégager. En plus de ceux de chez Wildstorm, parce qu'il n'y aura aucun auteur hein, qui va être supprimé. Les auteurs sont plutôt des gens qui travaillent en freelance. Ce sera plutôt vraiment le staff derrière, celui dont on n'entend jamais parler, les éditeurs, les responsables marketing,
Oui,
les
tout à fait.
relations publiques, ce genre de choses, quoi.
Et non mais tu fais bien de le préciser puisque donc j'ai consacré un petit article dans un BuzzBunny à cette situation et j'avais pas parlé de Zuda. Enfin, j'avais choisi de ne pas en parler puisque bon c'était on va dire secondaire.
Bah surtout qu'en France, c'est très très peu
Mais
connu, hein.
oui voilà, c'est surtout que bon voilà. Mais tu fais bien de le préciser. Bon on va continuer alors par contre on va rester chez DC ou du coup.
Bon, continuons chez DC, ouais.
Bon alors deux petites news très très rapides chez DC. Il va y avoir un Legion of Superheroes Annual numéro 1. Donc on parlait de Paul Levitz, bah, transition par Paul Levitz toujours.
Bah
Et
oui, puisque c'est Monsieur Légion.
oui et Keith Giffen.
Et Keith Giffen. Ça, par contre,
Voilà.
ça. C'est le dream come true, tu vois,
Et
c'est
oui.
Paul Levitz et Keith Giffen, deux scénaristes maîtres de la Légion réunis ensemble.
À nouveau ensemble pour décembre, donc cadeau de Noël. Décidément, le mois de décembre, on va le voir, est très très comment dire prometteur et plein de petites perles, plein de petits cadeaux.
Ouais, bah, vous allez claquer tout l'argent que vous pourriez faire en cadeau à vos proches en comics.
Voilà, puisque ce sera aussi l'occasion d'avoir une nouvelle Emerald Empress. Donc, je sais pas du tout, parce que moi je n'ai pas trop suivi la Légion, mais toi ça doit pas plus te parler qu'à moi. Ah du tout. Bon bah écoute,
Là comme
voilà.
ça, là de but en blanc, non. Peut-être parce que je suis fatigué aussi.
Donc, bah, on a une image avec cette Emerald Empress donc enfin voilà quoi, à disposition. Donc, on vous mettra le lien. Sinon, alors ça aussi tu vas aimer. On va parler de Morrison, Grant Morrison,
Ah, mon
qui
scénariste favori.
voilà, qui a confirmé que l'un des numéros de Multiversity, qui sera dessiné par Franck Wiocchi, s'intéressera notamment au héros de Charlton.
Ah.
Tu sais, les
Finalement,
fameux héros
peut-être.
de Charlton qui ont inspiré
Watchmen.
Watchmen, voilà, exactement.
Donc peut-être une suite officieuse à Watchmen qu'on
Mais
a demandé à
voilà.
écrire à Alan Moore il y a l'époque.
Oui, tu vois, peut-être qu'il faut y voir, tu vois, comme Alan Moore a refusé, bah, peut-être que dans Multiversity, on aura du pseudo-Watchmen.
Alors, quid de Ted Kord, le Blue Beetle, puisque c'est un héros Charlton à la base.
Ouais, et d'ailleurs on le voit sur une image de Charlton, donc on mettra le lien aussi où on parle au fait de
Ah
cette.
non, c'était pas Ted Kord, justement, qu'est-ce que je dis comme connerie?
Oui,
C'était celui d'avant. Je me rappelle plus son nom d'ailleurs. Mais
oui, le celui qui a inspiré un petit peu le personnage de Project Superpowers, non?
ouais, peut-être, ouais. Ouais, enfin, c'était celui qui a passé. C'était Dan Garrett, voilà. Dan
D'accord.
Garrett, le Charlton, le Blue Beetle de chez Charlton, qui avait, quand il a été intronisé dans l'univers DC, filé ses pouvoirs un petit peu à Ted Kord, justement, le Blue Beetle classique, grand ami de Booster Gold.
D'accord.
Donc, et du coup, ça risque de poser quelques soucis, enfin, je sais pas, avec Grant Morrison. Alors là, justement, je suis peut-être un peu plus intéressé pour voir ce qu'il va nous en faire de tout ça.
Bah écoute, donc voilà, donc une
Parce qu'on
news
a
quand même
aussi...
qui, voilà, à voir quoi, à voir ce que ça donne.
On a aussi vraiment The Question, hein, qui je crois était un personnage de chez
Et
Charlton.
oui, lié aussi,
Donc
The
vu que
Question.
c'est un personnage qui est mort maintenant, enfin comment va-t-il nous faire revenir tout ça là?
Bah, c'est le multivers en même temps, donc.
Ouais, mais bon, je pense qu'il va falloir nous donner une certaine explication, quoi. Enfin, je sais pas. Là après tout, tu vois, là j'ai envie de savoir.
Eh ben, tu auras la réponse prochainement. On part
Ouais,
chez
un jour.
Marvel. On part chez Marvel avec toujours en décembre, donc un énorme teaser,
Alors
celui
on
pour.
en avait parlé la semaine dernière.
Ouais, voilà. On annonçait peut-être un probable retour des Heroes for Hire. C'est confirmé. Les Heroes for Hire sont relancés en décembre. Et l'équipe créative est Dan Abnett, Andy Lanning et Brad Walker.
Et donc là, c'est un pur rêve.
Oui. Parce que Lanning et Abnett sur des personnages comme les Heroes for Hire. Alors attends, l'équipe de tarés. Donc il
Ah
y
mais
aura
oui.
Ghost Rider, Elektra, Punisher, Iron Fist et Moon Knight. Donc ça va tout déchirer là.
Ouais, c'est pas du tout les Heroes for Hire qu'on attendait,
Non.
c'est-à-dire Misty Knight, Calling Wing, Shang-Chi. Bon, Iron Fist, oui, c'est peut-être le seul Heroes for Hire que l'on attendait, mais sinon les autres, c'est une pure surprise et je sens que ça va être monstrueux. Enfin, j'espère de tout mon cœur que ça va être monstrueux parce qu'avec une équipe créative comme DNA, voilà, on connaît ce qu'ils ont fait sur l'univers l'univers cosmique.
Et Guardians of the Galaxy, donc l'équipe,
Oui,
ils sont
Nova,
excellents,
voilà.
excellents pour écrire des équipes totalement déjantées. Et alors là, Ghost Rider, justement, moi qui voulais voir du Ghost Rider et lire du bon Ghost Rider, bah là je vais être servi, je pense. Alors il y a juste un truc qui encore une fois m'énerve un peu chez Marvel, Moon Knight est déjà dans Secret Avengers. Alors est-ce qu'il va partir des Secret Avengers pour rejoindre les Heroes for Hire ou est-ce qu'il va être dans les deux
Après
équipes?
tout, Nova a déjà quitté les Secret Avengers
Oui,
à
en
la fin
plus
du
oui.
4.
Un peu ridicule.
Donc
Donc.
voilà, pour aller rejoindre War of Kings.
Eh mais franchement, à mon
Non,
avis.
pas War of Kings, ce que je dis comme connerie, Thanos Impérative.
Oui.
Donc, oui, je suis aussi un petit peu déphasé entre le Comic City et le Comics Weekly.
Oui, entre la VO et la VF, c'est difficile de s'y retrouver.
Il y a des fois des problèmes de temps. C'est la machine à DD, tu vois, ça nous désynchronise.
Oui, mais je pense que Morrison fera toute une histoire sur la machine à DD et le fait que ça nous a désynchronisé de l'espace-temps. Bref,
C'est la
bref.
time capsule de Rip Hunter, en fait, dans laquelle nous voyageons.
Bah d'ailleurs, on enregistre de la préhistoire aujourd'hui, hein. On
On a
regarde les
voulu aller
dinosaures
voir s'il y
passer.
avait vraiment les cavernes que Bruce Wayne a peintes.
Voilà. Très belle fresque d'ailleurs. Donc, l'équipe en question en tout cas, pour moi, c'est vraiment la meilleure équipe Marvel du moment, quoi. C'est les Heroes for Hire, c'est plus les Avengers qu'il faudra dire, c'est ça, quoi.
Mais c'est un vrai parfum de retour aux années fin des années 90. Bon, malheureusement, Joe Quesada et Jim Palmiotti à l'époque, les Marvel Knights, quoi, l'équipe Marvel Knights, ben, c'était plus 2000 en fait, la série Marvel Knights où il y avait
Avec
Daredevil, Moon
Daredevil,
Knight,
avec
Punisher, il y avait aussi Ghost Rider, je crois, ou je suis peut-être en train de dire une bêtise. Enfin bon, l'équipe qu'ils avaient faite, il y avait Elektra aussi, hein, cette équipe.
Mais tout à fait, ouais.
Ouais, il y avait l'équipe Marvel Knights, c'est vraiment un espèce de retour au passé, encore une fois, chez Marvel, mais cette fois-ci avec normalement un tandem qui est très très bon pour nous écrire des équipes, donc on verra bien. J'ai hâte.
Ouais, moi
Franchement, j'ai
aussi.
super hâte.
Bref, donc vous l'avez compris, on a hâte et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout.
Oui, c'est tout pour les news de cette semaine, hein, c'est déjà pas mal.
Oui.
Et donc on va passer tout de suite à la double review de la semaine, double review où on n'a pas eu ce qu'on voulait malheureusement. J'ai pas réussi à avoir à temps le Thor 615 qui devait être la double review de la semaine.
Donc, du coup, bah on va.
Et ben du coup, ce sera Secret Avengers numéro 5.
Voilà, quelle transition parler des Secret Avengers.
Voilà,
On y revient.
exactement. Donc scénario Ed Brubaker, au dessin on retrouve David Aja, Michael Lark et Stefano Godiano. Donc un joli petit trio de dessinateurs pour un épisode qui est franchement vachement plus sympa que les quatre premiers
Oui.
réunis.
Et ben pourquoi un épisode plus sympa? Parce qu'on va le dire tout de suite, c'est un épisode plus centré sur un personnage, à savoir Fury, ou en tout cas,
Oui, Fury,
oui,
Fury, c'est très bien.
Fury. Voilà, oui, c'est vrai. Ne précisons pas le prénom. Et du coup, on a cette ambiance un petit peu plus donc centrée sur un perso et un peu plus pulp, un peu plus polar,
Oui,
cher à
totalement, oui.
Brubaker. Et c'est là où on se rend compte qu'il est bien meilleur pour écrire, par exemple, du Fury. Un truc d'enquête, un truc un petit peu de voilà, tu vas vraiment centrer autour d'un personnage plutôt que d'écrire une équipe et bah c'est dommage puisque c'est sur Secret Avengers quoi. Donc ce
Soyons
sera
peut-être
vraiment
un petit peu méchants, mais Brubaker est totalement mauvais sur des équipes. Moi, je le trouve à chier. Son run sur
bah
X-Men, c'était
son
de la
run sur
merde.
X-Men, son run sur X-Men, c'était chiant.
Oh, c'était de la merde. Enfin, franchement, c'est tout pourri, quoi. La seule chose de bien qu'il nous a fait, nous a laissé Havok et Polaris dans l'espace, avec Rachel Summers et tout, et que bah, qui ont été mieux utilisés quand c'était pas lui, quoi.
Non, le
Notamment
seul bon
Bernadette
truc,
Langeweiler.
c'était la première saga qu'il avait fait, c'était, je crois que ça s'appelait Genesis ou je sais plus quoi, avec l'introduction de Vulcan. Mais le
Ah oui,
truc,
c'était une
oui,
mini, c'est
c'était une
vrai.
mini, c'était une mirine, donc c'était avant qu'il travaille vraiment
Enfin,
sur
Deadly Genesis,
Deadly Genesis, voilà, c'est
Deadly
ça.
Genesis, ouais.
Deadly
Enfin bon,
Genesis, il y avait de l'idée, c'était
moi
pas
je lui en
mal.
voudrais toujours de nous avoir révélé que le troisième fer Summer c'était Vulcain et non pas Gambit.
Oui, mais enfin, d'accord. Mais à côté de ça, il y avait une
Je
histoire
lui
pas
ferai
trop mal.
manger son chapeau le jour où je le rencontrerai.
Non mais il y avait une histoire pas trop mal, il y avait des révélations sur Xavier, sur le passé, etc. C'était bien foutu. Mais là, donc, pareil, un truc un petit peu qui nous révèle quelque chose sur un personnage du passé. Max Fury, c'est le titre de l'épisode.
Donc, est-ce l'univers Max ou est-ce
Oh
juste
là
le prénom
là, là, je
Max?
me disais pourquoi il y avait un gros blanc.
Je préparais une vanne de merde.
Oh là là là, mais en plus, je me disais mince, ça bug et tout, j'ai perdu Steve, si ça valait bien la peine. Donc,
Tout ça
bah,
pour une vanne pourrie.
qui est Max Fury, Steve? Explique-nous un petit peu.
Eh bien, peut-être est-ce Nick Fury sous un pseudo, ou peut-être pas. Puisque, bah, pour ceux qui ont lu les quatre premiers, on voyait que Nick Fury travaillait pour Serpent Council ou Shadow Council, je me rappelle plus exactement le nom, Serpent Crown Society,
The Serpent
enfin,
Society, je pense, c'est
ouais,
tout ça.
peut-être un truc comme ça, qui n'a rien à voir avec l'Hydra d'ailleurs.
Non, non, du
Et
tout. Non, non. Bah
on
non, mais il y avait
voyait,
déjà la Société du Serpent, il fut un temps, chez Marvel.
je crois que c'est la Serpent Crown Society. Hein. Putain, j'ai plus le nom en tête, puis je l'ai pas noté, donc voilà. Bon, ça fait un peu décousu comme ça, mais voilà. Donc on avait vu Nick Fury travailler pour l'ennemi. On se demandait, mais Nick Fury, comment est-ce possible? Encore une fois, c'est lui le grand méchant. Qu'est-ce qu'il va nous trouver comme explication? Ben, il nous a trouvé une explication qui finalement est pas si mal que ça, même si un peu tirée par les cheveux.
Bah, un peu prévisible aussi.
Ouais, un peu. Mais oui et non en fait. Oui et non, parce que par rapport. On va vraiment pas révéler. Parce que pour une fois que c'est bien.
Ouais, c'est pas mal. Oui,
Ce serait
enfin,
dommage. Ce
il y a
serait
une
dommage
histoire, en fait.
de.
Il y a une histoire, quoi. Il y a une histoire en une partie, voilà. On a
Et puis
vraiment le
pour voir.
background d'un personnage, quoi.
Et puis honnêtement, voir Nick Fury se faire engueuler par Steve Rogers, c'est quand même la classe.
Oui, ça m'a fait
Parce que
marrer, ça.
Steve Rogers moi-même l'engueule, comme une merde. Et donc ça j'ai trouvé ça drôle. De voir
Ouais.
le fameux grand espion que tout le monde avait peur de lui et Steve Rogers qui lui gueule dessus puisqu'il a maintenant son poste en fait. J'ai trouvé ça fort.
C'est vrai. Mais non, non, ouais, non, mais cet épisode était sympa. En tout cas, bien
Non.
plus sympa que les autres. Et
Et puis
ça.
bon, avec des dessinateurs comme David Aja ou Michael Lark ou Stefano Gaudiano, on a un truc vraiment joli quoi.
Oui. Puis alors, par exemple, au début, t'as une scène où tu vois donc Fury à Paris en train de lire un journal et t'as marqué l'araignée en costume noir. Ça m'a fait rire.
Oui, parce que bon, ça se passe vraiment. Il y a beaucoup de flashbacks. Ça remonte jusqu'à 10 ans auparavant. Après, on a des 8 ans, 7 ans, 6 ans. On voit plusieurs passages. Et cette période-là, en tout cas, le costume noir de Spider-Man, c'est 5 ans auparavant. Donc, Brubaker essaye de nous donner en plus une timeline de chez Marvel rapportée à nos années à nous. Ouais, je suis pas certain, par contre, ça que ce soit une très bonne idée de nous dire que Spider-Man avait son costume noir à l'époque il y a 5 ans.
Ah oui,
Que
mais
c'était l'arrivée du costume noir, en fait,
c'est ce qu'ils veulent nous faire croire toujours dans Spider-Man actuel, hein, c'est que tout ça c'était il y a 5 ans simplement, alors que voilà, on se demande comment c'est possible.
C'était juste les années 80, donc c'était juste il y a 30 ans. Non,
Et
pas encore, 25, puisque Secret Wars, ça doit être 84, je crois, bien.
ouais, alors que quelques épisodes après la mort de Gwen Stacy dans les Spider-Man à l'époque, ils disaient que ça faisait 2 ans qui étaient passés. En quelques épisodes, alors là, ça fait à peine 5 ans, tu vois, alors que ça fait 30 ans que c'est passé, quoi. Enfin bon.
Ouais, enfin bon. Le problème toujours de continuité. Hein.
Ouais.
Enfin. Mais en tout cas, franchement, c'est une bonne surprise. Je suis franchement content d'avoir quand même acheté ce numéro. Malgré ce que je disais dans l'Unspoken, est-ce que ça justifie l'achat, cette révélation? Eh bien là,
Oh
cette fois-ci, oui. Oui. Oui, pour moi, c'est un bail.
Oui, voilà. Faites-vous
Parce
un
que
avis
c'est peut-être.
justement. Est-ce que ça vaut le coup de continuer cette série après ça, quoi,
La
puisque.
continuer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être, en tout cas pour le moment, s'il devait y avoir qu'un seul numéro à avoir de cette série, ce serait celui-ci.
Clairement, c'est celui-là le plus intéressant, puisque l'équipe en elle-même, elle est toujours aussi inintéressante.
Mais l'équipe, on ne la voit pas.
Oui, on la
Pas
voit pas
une
dans ce
seule
numéro. Je veux
fois.
dire,
Si on la voit sur un écran de télévision.
après ce premier arc, je veux dire, elle est toujours aussi inintéressante. Elle a aussi peu d'intérêt qu'avant. Et là, c'est juste ce personnage-là qui relance tout l'intérêt de la série.
Et puis on a un final où on a un personnage qui débarque, un personnage que Brubaker nous avait ramené dans Marvel's Project.
Et qui
Voilà.
est un très ancien personnage Marvel.
On n'en dira pas plus pour éviter trop de spoil.
Exactement. Bon, bah écoute,
Voilà, donc un bail.
un bail. Pour moi aussi, oui.
Voilà. Pour une fois que je dis pas que je dis pas que c'est de la merde, Secret
Oui.
Avengers.
Non, mais écoute,
Je
Brubaker est
n'ai
capable
pas fait
de
mon
faire de bonnes
Jean-Pierre
choses, mais
Coff.
sur des personnages solo, donc c'est.
Ouais.
On sait que ça va pas durer, malheureusement,
Bah, pour une fois, je fais pas mon Jean-Pierre Coff, c'est bien.
logiquement. Voilà. C'est de la merde. Non, on dirait un Jean-Pierre Coffe de ouf.
Donc, on va passer maintenant au review solo. Alors moi, je n'ai qu'une review parce que, bah, comme on le disait en début d'émission, 3 podcasts en 3 jours, avec un boulot à côté, ça a été très difficile d'arriver à tout lire. Donc, je n'ai qu'une seule review solo à faire. Mais Benny, a eu le temps de lire 3 comics, donc il fera
Parce
une
que
review
Benny
solo à
fout
ma
rien.
place.
Benny il fout rien, donc il a eu le temps de
Ah, je
lire
n'ai pas
trois
dit ça.
comics.
Je n'ai pas dit ça.
Oui, non.
Je ne l'ai pas
Alors,
dit. Je ne l'ai même pas pensé.
non, bien sûr. Donc, je vais peut-être commencer par Flash.
Ouais.
Attention, grosse blague, je vais le faire très vite. Donc, le scénario est de Jeff Jones, les dessins sont toujours de Francis Manapul.
C'est le numéro 5.
C'est le numéro 5 d'un arc, à mon avis, qui sera en 6. C'est le premier arc, donc tagué Brightest Day. Et, à juste titre, puisque Captain Boomerang fait une apparition, et rappelle-toi, on avait parlé de Brightest Day en disant, mais où est Captain Boomerang? Ouais.
Et bah, il s'entraîne en Australie, peut-être.
Et bah, il est dans Flash. Voilà. Il est dans Flash, et justement, il y a un lien avec Brightest Day que je ne vais pas révéler, mais à découvrir dans ce numéro de Flash. Sinon, pour ce qui est de l'intrigue principale, Flash est toujours poursuivi par des ennemis du futur. En fait, c'est les versions des rogues du futur. Mm-hmm. Je crois qu'ils s'appellent les Renegades, là, leur version futuriste.
Je m'en rappelle plus.
Enfin, c'est une version alternative, en tout cas. Oui. Donc, les Rogues, en français, c'est les Lascars, en plus, rappelons-le.
Ah oui, cette magnifique traduction.
Voilà, les fameux Lascars. Donc, eux, ce seront peut-être, je sais pas, les gens du futur, ça pourrait être...
Si c'est les Renegades, les Renégats, tout simplement.
Oui, mais connaissant Panini, ils vont nous sortir un autre truc à tous les coups. Enfin bon, on verra. Geneviève Coulon, si tu nous écoutes. donc, Flash est toujours poursuivi pour un meurtre qu'il n'a pas commis, puisque c'est un meurtre qu'il devrait commettre dans le futur, et donc les Rogues se joignent à la partie, affrontent les Renegades, donc c'est un joyeux bordel, et en plus, Flash a un allié imprévu, qui lui fait une révélation comme quoi Iris est en danger, et voilà, et donc faut qu'il la sauve en exécutant ce qu'il lui conseille de faire pour empêcher le malheur qui frapperait dans ce cas-là Iris. Alors Flash va-t-il l'écouter? Comment les choses vont-elles se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Bah je vous laisse découvrir ça. Je peux m'arrêter là, tu vois. C'est en tout cas c'est un bail. Donc cet arc est toujours très bon. Ça relance à chaque fois l'intérêt, quoi. Tu vois, il se passe toujours un petit twist à la fin de chaque épisode. Donc là, ça ne déroge pas à la règle. On a envie de lire la suite. Et donc voilà. Bon, pour moi, c'est un bail. Si vous n'avez toujours pas acheté cette série, peut-être attendez le TPB pour avoir la saga complète en une fois.
Ouais, qui sortira quand même d'ici facilement, sans jeu de mots, sera 5-6 mois minimum. Hein.
Ouais oui bon faites comme vous voulez hein.
Si vous pouvez, je crois que c'est au minimum 3 mois après la sortie d'un arc qu'on a un TPB donc
si vous pouvez avoir les épisodes que vous avez manqués attrapez les vite sinon c'est un bail clair et net. Les dessins de Francis Manapul d'ailleurs me font un peu penser quand il dessine Flash par moment au Flash du dessin animé de DC quoi, de Bruce Timm. Mm-hmm. Tu sais, il a un petit peu la mâchoire à la Bruce Wayne par moment. Donc c'est assez cartoony, mais c'est vraiment pas désagréable du tout. Et voilà, c'est toujours du très bon Jeff Jones sur Flash, un personnage qui vraiment qui le tient bien.
C'est personnage cher à son cœur hein, quand même.
Ouais. Donc je vais peut-être enchaîner sur une autre petite review.
Oui, retourne chez Marvel.
Oui, je retourne chez ta mère. Mais on en met enfin. Donc on va peut-être parler de Hulk.
Oh bah, ou pas, je sais pas, tu dis peut-être, donc moi je dis
oui,
pas.
Oui, non, mais enfin, il y a le choix, trois trucs, mais non, parlons de Hulk. Donc Hulk 25, le scénario est de Jeff Parker et les dessins de Gabriel Hardman. Alors Jeff Parker vient de débarquer sur Hulk.
Hulk s'arrêtera donc dans 6 épisodes.
Non, c'est possible en plus, puisque, bof quoi. Alors donc je vais rentrer dans les détails tout de suite. Ça commence sur une confrontation assez bizarre. Alors, je pense que la première page, je sais pas si c'est Gabriel Hardman qui l'a dessiné, parce qu'on dirait vraiment que c'est du Ed McGuinness, quoi. C'est assez bizarre.
Peut-être une émulation de style, hein. C'est fort probable pour essayer de faire un passage en douceur.
Ouais, tout à fait. Puisqu'on assiste, au fait, à une scène de fin de bataille, donc, qui fait appel au numéro précédent, où, au fait, Hulk se fout un petit peu de la tête du Red Hulk en lui disant que, maintenant qu'il a perdu, en plus, il va devoir rester Red Hulk, puisque, je vais devoir le spoiler à force, hein. Red Hulk était, au fait, Thunderbolt Ross.
Oui, enfin, c'est plus vraiment un spoil, hein. Ça a été dit il y a quand même, maintenant 3 mois.
Donc il lui dit qu'il peut même pas redevenir Thunderbolt Ross publiquement puisque normalement il est censé être mort. Et en plus c'était Hulk qui l'avait au fait fait passer pour mort pour justement un petit peu le enfin il a réussi à l'embobiner un petit peu et du coup Thunderbolt Ross il n'a plus qu'à rester Red Hulk quoi, c'est son vrai sa véritable identité de maintenant, quoi, en fait. Donc, il est un petit peu dégoûté.
Mais peut-être est-ce une page hein, repiquée du dernier numéro, hein, simplement, comme ça arrive de temps en temps.
Je ne crois pas. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir lu cette page dans le dernier numéro, puisque j'en avais aussi parlé. Rappelle-toi.
Oui.
Donc voilà. Donc bon, ça commence là-dessus, et puis ensuite, on arrive à une scène où, au fait, Captain America, donc Steve Rogers plutôt, et Hulk vont rendre visite à Red Hulk pour essayer de, comme prévu d'ailleurs, puisqu'on l'a vu dans les sollicitations, donc c'est pas une surprise, de lui faire entendre raison et peut-être de lui faire intégrer l'équipe des Avengers.
Donc là, qui va arriver puisqu'on a lu les sollicitations.
Exactement. Donc là, on a vraiment l'impression que Jeff Parker, en plus, mâche le travail de Bendis pour que directement, au fait, Hulk intègre l'équipe dans Avengers et que Bendis n'ait pas tout ce travail à faire, tu vois, d'intégration, quoi, du personnage dans l'équipe.
Ouais, enfin, c'est peut-être une consigne qu'on lui a donnée, puisque Bendis est quand même traité comme un roi chez Marvel. Donc, quand on dit un petit scénariste, désolé pour Jeff Parker, mais comparé à Bendis, c'est un petit scénariste, en tout cas aux yeux de Marvel. Quand on lui dit, voilà, tu vas faire ça. Bah, il n'a pas d'autre choix que s'exécuter, parce que c'est soit ça, soit on donne le titre à quelqu'un d'autre. Et Jeff Parker n'a pas forcément très bonne image chez Marvel, étant donné que toutes les séries qu'il fait s'arrêtent quasiment à cause de mes ventes. D'Agent of Atlas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Shield. Non, pas Shield, Sword. Je sais pas si c'est Jeff Parker, ça.
En tout cas...
C'était Jonathan. Oh, je sais plus.
Bah, en tout cas. On a de bons échos sur Agents of Atlas, alors peut-être en parlerons-nous un jour, on verra. Toujours est-il que il y aura du Agents of Atlas, je crois, en français d'ailleurs prochainement. Mais bref, je sais plus où. Mais donc pour revenir à l'histoire, il y a toute une partie du coup qui est centrée sur l'intégration de Hulk, du Red Hulk, pardon, à l'équipe des Avengers, c'est-à-dire qu'ils essayent de lui faire entendre raison, etc. Donc un petit peu voilà Jeff Parker qui mâche le travail de Bendis et puis ensuite on part sur une intrigue où au fait Bruce Banner révèle à Thunderbolt Ross que au fait le leader et MODOK qui l'avait manipulé précédemment ont au fait mis en place un espèce de plan un plan B quoi au fait si jamais ils étaient battus il y aurait donc des espèces de monstres un peu partout sur Terre qui apparaîtraient suite à leurs expériences etc en fait des espèces de bombes à retardement quoi
c'est un peu pourri quand même.
Enfin là je te résume vite fait mais en gros c'est ça l'idée hein. C'est le plan Scorched Earth voilà
ouais terre brûlée quoi
ou terre brûlée tout à fait ouais. Donc l'idée est un peu pourrie et grosso modo après on parle là-dessus, c'est-à-dire que Red Hulk part à la recherche de ces espèces de, enfin de l'un de ces espèces de monstres. Donc là en l'occurrence c'est une espèce d'armée de cyborgs d'un seul coup dans un camp militaire, voilà. Et donc en les affrontant arrive comme on peut le voir sur la couverture Iron Man. Et alors là super c'est Marvel. Donc comme chez Marvel de l'ancien temps, tu vois il y a Iron Man qui voit Red Hulk. Et apparemment, Captain America n'a même pas été foutu de prévenir Iron Man que Red Hulk bossait pour eux. Et donc, il y a un bon vieux combat entre Iron Man et Red Hulk qui lui dit « Mais non, mais je suis un gentil maintenant !» Et t'as Iron Man qui le croit pas et qui lui envoie des missiles. Et puis, tu vois, il y a toujours les deux héros qui
s'affrontent. Le tandem classique, d'abord on se fight, ensuite on est potes.
Voilà, exactement. Et puis à la fin...
Enfin, c'est pas une spécialité de chez Marvel, hein, chez DC, ils font la même chose.
Hein. Oui, aussi, mais là, ça m'a rappelé les vieux épisodes de Strange, tu vois, où c'est un peu ridicule, à chaque fois, ils se fightent, alors que les méchants, enfin, les méchants, la menace est toujours là en même temps, hein, les espèces de cyborgs, machin. Et du coup, donc Iron Man, puisqu'il est en train d'affronter Red Hulk, se fait avoir comme une merde à la fin par un espèce de cyborg, et c'est assez drôle, puisque le cyborg le touche, et au fait, ça se termine sur un Iron Man, tu sais, il y a l'armure qui s'ouvre, et il n'y a plus personne dans l'armure. Donc est-ce qu'il a été tué comme une merde et décomposé par ces espèces de créatures, ou bien alors est-ce qu'au fait c'était juste simplement une armure vide en fait qui avait été envoyée par Stark, ce serait bien possible à mon avis.
Téléguidé,
le cliffhanger, ça va être juste ça quoi en fait. Ils vont vous dire que c'était une armure vide et voilà quoi. Et au fait que Tony Stark n'était pas à l'intérieur dès le début.
Ça m'a l'air donc, assez basique hein, quand même.
Oui, c'est super basique. Ça donne pas spécialement envie de lire la suite. Franchement, grosse déception. Et puis surtout, voilà, comme je te disais, Jeff Parker en plus mâche le travail pour Bendis plus tard. Donc Bendis va sans doute récolter tous les lauriers de la gloire ensuite. Jeff Parker, lui, va partir de Hulk parce que ça ne marchera pas.
Au bout de 5 numéros, il va dire.
Au bout de 5 numéros. Donc voilà. Bon, bah alors, franchement, une reprise par Jeff Parker...
Et il avait fait aussi Exiles, les dernières séries qui s'étaient arrêtées au bout de 6.
Ouais. Mais en même temps, voilà. Peut-être que ça avait été pourri par le run de Claremont.
C'était ça que je cherchais tout à l'heure.
Ouais. Donc voilà, donc clairement pour moi c'est un pass, hein, malgré tout. C'est
Petite
dommage.
question, est-ce un double dû au numéro 25 ou est-ce un numéro simple classique?
Non, c'est un numéro simple.
D'accord.
Et du coup, ah oui, j'ai oublié de parler. Il y a un backup au fait, écrit toujours par Jeff Parker avec Mark Robinson au dessin sur A-Bomb.
D'accord.
Donc A-Bomb va simplement en fait affronter un espèce de monstre qui est aussi une des créatures, tu sais, qui est apparue suite à la défaite de MODOK et du leader.
Enfin, quand on sait qu'il va y avoir le retour de l'abomination.
Ouais. Non, bah
Ça a
là.
été annoncé par Marvel en plus,
Là,
à une
A-Bomb,
époque.
il a franchement un rôle assez comique, style Jimmy Olsen, quoi.
D'accord. Oui,
Voilà.
puisque de toute façon, c'est Rick Jones. Donc,
Donc oui, voilà, puisque c'est Ray Jones. Mais là, il a clairement ce rôle-là, quoi. C'est une toute petite backup de. Allez, enfin, seconde feature d'ailleurs, je devrais dire, pas backup. Seconde feature de je sais pas, 5-6 pages, quoi.
bah ouais, enfin c'est un backup hein, chez Marvel, ils ont
D'accord.
pas. C'est. Voilà.
Donc voilà, non, mais pour moi clairement c'est un pass. Malgré la nouvelle équipe, c'est dommage, mais pour moi l'essai est raté, quoi.
Mais finalement on en vient à regretter Jeff Lobb, c'est quand même énorme.
Bah enfin moi, limite là,
Non mais
je préférais les derniers.
alors qu'au tout début, on disait oh là là, mon Dieu, Jeff Lobb, va-t'en.
Bon, à mon avis, les gens vont. Enfin, les gens. L'ensemble des critiques ne va pas dire que c'est aussi mauvais que Jeff Lobb, mais franchement, moi, enfin, honnêtement, j'ai préféré les derniers numéros de Jeff Lobb que ça, quoi. Dommage. Voilà, je te laisse aller sur ta review.
Ouais, on retourne chez DC avec Batman Streets of Gotham numéro 16. Alors, scénario de Paul Dini, dessin de Dustin Nguyen et ancrage de Derek Friedolfs. Donc, puisque c'est Paul Dini, on est enfin de retour sur son nouvel arc, House of Hush. C'est donc
Oui.
le chapitre 1. Alors, ne croyez pas les sollicitations qui vous disent que c'est le chapitre 3, puisque dans le 14, nous avons juste droit à la prélude dont tu nous avais parlé, Benny, à l'époque, qui faisait que 11 pages.
Oui, tout à fait.
Le mois dernier, on nous a dit que c'était la partie 2, or il n'en était rien, c'était juste le truc sur Two-Face. Donc moi, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Hein.
Ah d'accord, il n'y avait même pas
Non, il n'y
de...
avait pas d'House of Hush. Total plantage dans les sollicitations de chez DC, qui nous annonce donc que c'est la partie 3, alors que bah, numéro 14 était déjà censé être la partie 0, non pas la partie 1. Donc déjà, il y a une couille, ça devrait être au moins la partie 2. Et en réalité, il s'agit de la partie numéro 1.
Alors, à mon avis, la personne qui a géré ça, elle est parmi les 50 qui vont se faire virer.
C'est bien probable.
Oui, parce que là, oui, là, c'est un employé Panini, quoi, c'est pas possible.
Non mais c'est du grand n'importe quoi. Encore heureux, c'est pas mauvais. Alors on a toujours le second feature, je vais le dire d'entrée de jeu, sur Two-Face. Je ne l'ai pas lu. N'ayant pas lu la partie d'avant, j'ai décidé de ne pas le lire. Parce que bon, de toute façon déjà j'étais short au niveau de temps. Et puis bah, vu que j'avais pas lu la partie d'avant, c'était très con de parler d'un truc où il manquait une partie. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne le gros intérêt du numéro, c'est-à-dire House of Hush, on a donc Hush, toujours avec ce visage de Bruce Wayne. Et toujours chaperonné par tous les membres de la Justice League hein, qui se relaient pour enfin la Justice League et quelques autres hein, puisqu'on a Katana qui ne fait pas partie de la Justice League qui se relaient pour le surveiller et pas qu'il fasse trop de conneries avec le visage de Bruce Wayne.
Oui.
Il a décidé de faire sortir de prison
Oui.
des criminels.
Oui.
On
Dont.
en parlait dans la première partie,
Voilà.
dont la
Dont.
Jane Doe.
Voilà.
Jane Doe qui avait été capturée par Manhunter, reportez-vous au co-feature du tout début de Streets of Gotham.
Exactement.
Voilà. Malheureusement pour lui, c'est refusé. La libération sur parole est refusée pour Jane Doe. Donc il n'est pas très content et il pense qu'il va falloir qu'il trouve un nouveau plan. Mais il y a toujours ce personnage qu'on avait vu introduit dans le prologue, ce fameux Pierce là, qui a fait 37 ans, je crois, si je me rappelle bien, en prison. Et qui cherche à se venger, et donc il voulait se venger en tuant Bruce Wayne. On apprend un petit peu plus sur pourquoi il veut tuer Bruce Wayne. Ça fait 37 ans qu'il est en tôle, il peut pas l'avoir connu Bruce Wayne. Bruce Wayne est censé avoir 34, 35 ans apparemment. Donc logiquement, il peut pas l'avoir connu. Mais c'est qu'en fait, il veut se venger de Martha Wayne.
Ah oui, d'accord, oui, c'est ce qu'on laissait entrevoir dans la première partie.
Donc on continue d'en apprendre plus hein, sur le passé des Wayne, la relation qu'elle avait, que les Wayne avaient avec les Elliot, la relation que Martha avait avec ce fameux Pierce.
Oui, mais d'ailleurs ça me fait penser que ça risque de marcher un peu sur les plates-bandes de ce que fait Morrison avec le docteur Hurt, sa relation par rapport au Wayne. Et c'est dommage parce qu'on a deux docteurs, le docteur Elliot d'un côté et le docteur Hurt de l'autre, que finalement les deux histoires n'ont aucun rapport, puisque Morrison, à mon avis, ne travaille pas de concert
Non,
avec
je pense pas,
Dini,
non. Non, je
du
pense
tout
pas.
même. Et on en a une qui est un peu passée à la trappe, celle de Dini, donc hein, dont on parle pas beaucoup. Les gens ne lisent pas forcément Streets of Gotham, et bon, avec raison là ces derniers temps, puisque c'est un peu du n'importe quoi la publication.
Ah bah oui, totalement. Et là, ils sont en train de se pourrir eux-mêmes, hein, c'est
Oui,
clair.
oui, oui. Mais est-ce que justement, c'est pas fait exprès, tu vois ce que je veux dire?
Bah, je sais pas. En tout cas, il y a quand même un angle d'attaque assez différent, puisque c'est vraiment par rapport à les soucis qu'il y a
Non, mais
entre
ce
la
que je
famille
veux dire, est-ce qu'on
Elliot.
leur a pas mis des bâtons dans les roues exprès, simplement parce que
Ah,
faut
je
pas
sais pas,
que...
je pense pas. Je pense pas que c'en soit là, c'en soit la guéguerre à ce point-là, quand même.
Bon, d'accord.
Non, enfin, ça me paraîtrait énorme, quoi. Enfin,
Oh bah,
soit
qui
digne de
sait,
la mafia, quoi. Enfin, je sais pas,
hein?
c'est...
La mafia Morrison. La
Ouais,
mafia
la
Morrison.
mafia
C'est quoi,
Chile,
c'est un
c'est avec un
écossais?
nom comme Dan
Hollandais?
DiDio, c'est très italien, on sait jamais.
Ah oui, non, mais
C'est
non,
peut-être
c'est pas
Don
là.
DiDio, en fait.
Oui.
Ouais. Ouais, donc c'est sur cette vanne miteuse que je vais continuer très vite, hein, pour la faire oublier. Non, mais là le truc c'est beaucoup plus par rapport à des contrats, par rapport à Wayne Enterprise et justement les pharmaceuticals Elliot. Donc c'est surtout ça les problèmes qu'il y a hein, entre les deux familles, notamment. Bon, en tout cas, ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Ça termine sur bah, la rencontre entre Pierce et Bruce Wayne. Je vous laisse imaginer comment ça peut se passer. Pas bien.
Pas bien.
pendant que de son côté, Jane Doe, elle, tente de s'échapper d'Arkham et fout un bordel monstrueux. Donc, à mon
D'accord.
avis, tout ça va se rejoindre dans un méli-mélo sans nom.
Mais ça a l'air super intéressant quand même, hein, mine de
Ouais,
rien.
c'est censé être en 6 parties. Donc, je suis pas sûr que le prélude compte comme partie 1, enfin, en tout cas, compte comme dans ces 6 parties. Donc, ça doit être normalement la partie 1 sur 6. Ça bouge énormément dans ces 22 pages, il se passe énormément de choses. Donc, si ça continue sur ce rythme-là, ça peut être un très très grand arc.
Est-ce qu'il y a un second feature du coup, puisque
Bah oui, donc c'est ce
ah
que je
oui.
disais au début, il y a le Two-Face, mais je ne l'ai pas lu puisque j'ai pas lu le numéro 15 en fait, j'ai zappé cette partie-là. Donc, je voulais pas lire en ayant un bout qui manque, notamment un bout de 22 pages.
Mais au moins il y a 22 pages cette fois-ci sur
Ah bah,
l'histoire
il y a 22
principale.
pages sur l'histoire principale plus le co-feature.
Donc c'est un bail là, clairement quand même.
Bah, c'est un bail
Ou
pour
si.
l'histoire, mais vu les conneries qu'ils ont faites, je dirais que c'est qu'un check-it, quoi. Maintenant, le problème, c'est que si on ne soutient pas, c'est une série qui risque de s'arrêter pour mes ventes.
Et
Alors,
c'est
ils
quand
ont
même,
fait une
c'est quand...
erreur. Est-ce qu'il faut les saquer? Je sais pas.
Bah là, il la répare quand même en faisant 22 pages cette fois-ci, et puis
Bah, Dini
plus.
répare son erreur. Est-ce que c'est vraiment une erreur de Dini? Est-ce que Dini a pas rendu son scénar à temps? Est-ce que Dustin Nguyen a rendu ses pages en retard? Je sais pas d'où vient le
Je crois que c'est
problème. Est-ce que
Dustin
c'est
Nguyen.
DC?
J'ai entendu dire que c'était Dustin Nguyen qui avait du retard. Dans les bureaux de DC, m'a-t-on dit, je suis allé. Non,
Est-ce
mais
que c'est
j'ai
simplement
lu
le
ça sur
staff
Internet, il me
éditorial
semble.
Ah oui, non, parce que ça peut être aussi le staff éditorial de DC qui a complètement chié dans le truc.
Il me semble que c'est plutôt Dustin Nguyen qui a du mal. Mais je crois. Hein. Bah, enfin, si vous en savez plus, auditeur, dites-le nous.
N'hésitez pas, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe un peu. J'ai pas eu le temps de faire des recherches, j'ai déjà pas eu le temps de tout lire. Vraiment pas le temps de faire des recherches. Donc en tout cas, non, c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup, surtout si vous aimez bah, tout ce que Dini a essayé de faire sur Hush. C'est vraiment sympa. Ça se veut être la suite
Moi, j'ai
de Heart
adoré.
of Hush,
Donc,
mais de toute
franchement.
façon, ça se veut être aussi la suite de ce qui a déjà été fait dans Streets of Gotham, période Dini.
Très bien.
Donc voilà, donc c'est bon, j'hésite entre le bail et le check-it, quoi. C'est un bail au niveau de l'histoire, mais en même temps un check-it pour montrer à DC son mécontentement. Au risque bien sûr de faire arrêter la série. Voilà. Je te laisse sur ta dernière et ultime magnifique review.
Oui, Nemesis numéro 3 sur 4, déjà. Enfin déjà, il y a eu du retard, mais je veux dire, il n'y aura que 4 numéros, faut le rappeler. Le scénario est de Mark Millar, les dessins de Steve McNiven. Bon, on continue dans le délire total. Donc, Nemesis, à la fin du dernier épisode dont j'avais parlé à l'époque, s'était fait pincer par la police. Mais évidemment, comme c'est une espèce de pseudo-Batman et qu'il est super intelligent, en fait, il a tout planifié à l'avance. Et il savait qu'il allait être pincé, mais au fait, il a fait exprès de se laisser prendre. Enfin se laisser prendre, se laisser faire coffrer quoi. Pour avec Millar, ce serait pas étonnant, remarque, hein, ça pourrait être ça. Mais c'est plutôt Millar d'ailleurs qui nous prend pour des cons. Mais voilà. Qui nous entube sacrément quand on achète ça. Mais bon. Bon, en même temps, je l'ai pris, donc bon.
Audrey, j'ai un qui est le plus con des
Mais
deux.
au moins je suis lucide. Non mais au moins je suis
Non mais
lucide.
oui, voilà,
Au
au
moins
moins
je me rends compte que.
tu peux cracher dessus en l'ayant lu, quoi.
Au moins voilà. Au moins je me rends compte que c'est quand même de la merde. Donc c'est de
Oh,
la
je sais que
merde.
c'est pas bien de télécharger, mais il y a des fois, franchement, faudrait. Hein.
Oui, mais là en l'occurrence j'ai pris ce Nemesis numéro 3. D'ailleurs je les ai tous du coup. Bon, je pense que je prendrai le quatrième. quel fou. Mais donc c'est du grand délire, c'est du grand n'importe quoi. C'est faut vraiment le prendre comme ça quoi. En fait, c'est vraiment du millard totalement dans ses délires quoi. Donc c'est too much, c'est du grand guignol, c'est super malsain, c'est gratuit mais vraiment 100% gratuit quoi. Pas le comics, hein, l'histoire. Ça arrangerait bien aussi quelquefois que ce soit gratuit comme tu disais.
Des fois même on devrait être payé pour lire certains trucs.
Oui, mais tiens d'ailleurs j'avais pas dit que je voulais pas faire la troisième partie l'autre fois.
Oui.
Et qu'il fallait que je me paye.
Oui. Mais malheureusement tu n'auras pas un centime de moi.
Ouais, mais en plus j'aurais même pas un centime. Non, en plus je l'ai fait vraiment.
Peut-être je te ferai un bisou au LCF.
Ouais, oui voilà c'est ça. Oh non.
D'un seul coup ça te fait reculer là.
Non. Je dirais même le quatrième d'ailleurs s'il le faut. pour pas avoir le bisou. Mais du coup voilà, donc c'est hyper gratuit et au fait je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris non plus que Millar se foutait de la tronche du monde déjà depuis bien longtemps. Mais Nemesis, ça c'en est la preuve par la preuve flagrante. Et faut pas le prendre pour un truc sérieux quoi. C'est tellement de mauvais goût certains passages que de toute façon c'est évident que.
Bah donne-nous des exemples quand même.
Bah, par exemple, il humilie totalement l'espèce de mec donc qui poursuit Nemesis depuis le début de la série. Donc il lui fait avouer des secrets de famille, par exemple. Alors, le mec est obligé d'avouer publiquement au fait que son fils est homosexuel. Alors bon, il en a honte, quoi, tu vois. Il voulait pas le révéler publiquement. Il révèle aussi que au fait sa fille s'est fait avorter. Et au fait de ces deux choses, va y avoir un truc assez malsain, même totalement malsain qui va se passer quoi. Donc je vais pas révéler quoi, mais orchestré par Nemesis bien évidemment. Et bon, enfin tu vois, c'est totalement gratuit, c'est du grand n'importe quoi. C'est un petit peu, enfin tu vois, moi ça me faisait penser à certains épisodes de Nip Tuck. Donc la série pour ceux qui ont suivi Nip Tuck à la télé, voilà c'est ça, c'est vraiment on va dans la surenchère quoi, à fond quoi, de plus en plus. Donc mais c'est fait exprès en même temps. Donc si on achète ça, faut pas s'attendre à autre chose quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi.
Comment donc, ce mec peut encore être crédible?
Bah,
moi c'est la question que je me pose.
Oui, mais justement je sais pas. Franchement, je sais pas si c'était le bon timing pour sortir Nemesis et puis ensuite sortir Superior quoi. Nemesis.
Tu m'exposais ton idée juste avant l'enregistrement, donc vas-y.
Hein. Oui, alors oui, l'idée que peut-être que le grand plan de Millar, puisqu'on sait qu'il il crée un espèce de Millar World, enfin en tout cas il a la prétention de le dire. voilà. Le truc c'est que peut-être va-t-il opposer un jour Superior, donc son Superman à lui, à Nemesis, donc son espèce de Batman, puisqu'en plus là c'est un Batman méchant, donc voilà. Et peut-être voilà qu'on aurait Superior face à Nemesis. Quoi.
On va nous faire une revanche de Dark Knight Returns.
Voilà, version Millar en fait. Ce serait bien possible ça.
Sérieusement, c'est un pignouf quoi. Je veux dire, ce mec n'a aucune crédibilité. Il y a des gens qui devraient être bannis du milieu et je pense que Mark Millar en fait partie. Il a fait de très bonnes choses. Je ne dirai jamais le contraire. Il a fait de très bonnes choses. 1985 et une tuerie, c'est un truc.
Old Man Logan
est excellent sauf la fin. Je suis désolé, la fin c'est une connerie pas possible.
Moi j'ai aimé. Enfin bon.
Non, à la fin il va dans la facilité, il nous fait exactement ce qu'il est en train de faire dans Nemesis. C'est-à-dire que c'est un petit pignouf qui ne sait jamais se sortir de ses histoires et qui veut en donner de la surenchère. Kick-Ass est une daube sans nom. Tant pis si je me fais des ennemis en disant ça. Kick-Ass est une merde. Faut ouvrir les yeux quoi. Enfin oui. Voilà. Donc voilà, non, ce mec-là, je ne comprends pas comment on peut encore lui faire confiance. Je sais pas comment les studios peuvent encore parier là-dessus. Et à mon avis, avec Nemesis, il est en train de se prendre une déculottée. Et j'espère que ça va lui faire mal et que les studios vont ouvrir un petit peu les yeux en commençant à dire bon, peut-être falloir que tu te recentres un peu en nous posant des bonnes choses. Ce qu'il fait actuellement sur les Ultimates Avengers, c'est la merde.
Oui, c'est mauvais. Bah, c'est pas bon. Tout le monde le dit. Tout le monde est d'accord. C'est
voilà.
Vraiment.
Donc bon, ouvrez les yeux. Rendez-vous compte que Millar, c'est ce qu'on appelle un phony, quoi.
Mais je pense que c'est avec Kick-Ass au fait que en fait il fait tout son beurre sur Kick-Ass actuellement. Il y a eu le film, le DVD qui est sorti et qui a un bon succès en DVD, plus qu'en film d'ailleurs. Je pense qu'il sera plus rentable en DVD à terme. Mais voilà, je pense qu'il fait tout son beurre là-dessus. Kick-Ass 2 qui va être publié très prochainement d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il se repose là-dessus et
tant qu'il y aura Kick-Ass... Le mec est un poseur quoi. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle un poseur. Un fake. C'est un fake. Le mec fait de la provocation pour faire de la provocation. Voilà, bon ça pouvait peut-être marcher dans les années 80, mais faut se réveiller, on est en 2010 quoi. C'est fini tout ça.
Oui, enfin bon, donc écoutez, hein, comme d'hab, hein, c'est un pass pour ceux qui.
Alors, bien évidemment, enfin, je vais juste préciser quand même que ce que je dis n'engage pas d'autres personnes que moi. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose et on est ouvert au débat, bien évidemment. Donc voilà, faut pas non plus prendre ça pour parole d'évangile.
Oui, non, non,
Non, parce
mais.
que c'est déjà arrivé, donc voilà.
Oui. Voilà.
Donc mes propos n'engagent que moi et je n'oblige personne à penser de la même chose que moi. Je sais que ça fait un peu crétin de devoir le préciser, mais apparemment des fois on est mal compris. Donc voilà,
Donc,
j'insiste.
bref, donc impasse pour tous les gens qui
Sans
seraient
déconner,
allergiques.
je pensais que c'était un total bail, moi.
Ouais, non, mais impasse pour tous les gens qui seraient allergiques. Mais il y a des gens donc qui adorent cet esprit totalement décalé et qui veulent. Enfin, vraiment, si vous voulez une grosse daube, un truc totalement sidérant, si
Non,
vous
mais je
voulez
sais
vous
pas.
marrer.
Je suis
Mais
peut-être un peu trop vieux pour ce genre de conneries. Moi, ça rentre plus du tout dans mes délires, quoi. Mais je sais même pas si ça y serait rentré 10 ans auparavant, tu vois.
Le plus drôle, c'est la pub à la fin pour la variante cover, Bloody Covers, d'Alternate, de comment s'appelle
Dynamic Forces.
voilà, Dynamic Forces qui propose les Bloody Covers, qui vont se vendre comme des petits pains sans doute, alors que voilà, il y a 3 taches de sang sur une couverture et apparemment
Faudra
ça
quand même
presse.
jeter un œil, je pense, aux ventes de Nemesis. On risque de rigoler.
Ouais.
Sachant que c'est chez Icon, donc c'est ses propres deniers.
En plus, bon, et mais sachant que peut-être qu'il va faire un film aussi.
C'est pas Supérieur plutôt qui a été adapté et pas Nemesis. Je
Je
crois pas
sais
que
pas,
Nemesis ait été
mais
optionné, je me rappelle pas. Hein.
oui, on verra. Mais je pense que ce serait pas impossible en tout
À
cas.
mon avis, un truc aussi crade que ça, je pense pas qu'il y ait un studio qui va prendre le risque. Parce que Kick-Ass, déjà, ça a été apparemment bien édulcoré. Mais un truc aussi crade et aussi violent et aussi malsain que ce genre de choses, je vois pas de studio qui pourra en faire une grosse tête d'affiche, quoi. Ah, peut-être en autopromotion et en autoproduction, pardon, mais c'est tout, quoi.
Bon, en tout cas. Voilà, bah ça clôture notre numéro de Comics Weekly de la semaine.
Avec
La
du
semaine
très bon
prochaine.
et de la merde.
Quoi?
Avec du très bon et de la merde. C'est bien, on a
Ouais,
un peu de tout,
mais
quoi. On a un peu de tout.
la merde vraiment volontaire là. Enfin
Ouais, non, mais c'est bien, on a un peu de tout, quoi. Donc,
bon. Donc, la semaine prochaine, mais je ne serai pas là. Oh.
Oh.
Vraiment, alors là,
Mais il y aura quand même un Comics Weekly.
mais il y aura un Comics League, ouais, avec.
Claire qui va nous rejoindre, qui va prendre la place de Benny
Donc, un Comic
la
City,
semaine prochaine.
pas 100% féminin, puisqu'il y aura toujours Steve et sa barbe, comme Corvier, mais
Bon, il y a les cheveux, mais il y a la barbe.
il y a la barbe aussi. Sans ma barbe. Quel titre
Quelle
formidable.
barbe.
Oui, quelle barbe. Voilà. Et
Ça pourrait
donc,
être le mot de la fin, d'ailleurs.
oui,
Ça.
non, non, oui, va falloir que
Ça
j'y
aurait
pense
pu.
aussi.
Ça aurait pu.
Attends, si tu vas voir, ça va être très drôle le mot de la fin. Donc, la semaine prochaine, avec peut-être du Wonder Woman, alors.
Il y aura du Wonder Woman, effectivement, parce que ça sort la semaine prochaine, et Claire
Pour
va se
qui
faire
sait.
une joie de le lire, puisqu'elle le suit, la série, depuis l'arrivée de James.
Donc ça tombe bien, tu vois.
Oui,
Tout est prévu. Nous aussi, on planifie sur 20 ans.
c'est... Non, c'est un total hasard, hein, soyons honnêtes, c'est un total hasard, mais ça tombe bien.
Voilà. Alors, autre chose à dire?
Oui, vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires, hein. N'hésitez pas à réagir à nos propos, surtout aux miens très virulents face à Mac Millar ou à autre chose, hein. Il n'y a pas que ça dans le Comics Weekly.
La barbe de Steve.
Ou la barbe, les cheveux, ou quoi d'autre, hein, je sais pas, le Streets of Gotham, les plantages de DC et autres joyeusetés. Donc vous pouvez nous laisser ça dans les commentaires, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse podcast@comiccity.fr si vous voulez, si vous avez une question à laquelle vous voulez qu'on réponde dans Comics Weekly, juste précisez-nous, je sais pas, entre parenthèses, en fin de message, comme vous voulez plutôt votre réponse dans Comics City ou dans Comics Weekly, ça nous aide un peu plus à déterminer dans quel podcast il faut qu'on réponde. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de audio, hein, donc au 09 70 440 470, numéro non surtaxé, hein, je précise, c'est un appel national normal, ou par Skype en ajoutant Comic City à vos contacts et en laissant un message sur le répondeur. Et c'est un répondeur. C'est pas, on va pas vous répondre en direct. Voilà. Et puis, bah, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes, vous nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Twitter. Et là, j'ai vraiment fait le tour. Et je suis assoiffé d'avoir trop parlé.
Voilà. Et donc, tout à l'heure, on parlait de Jack Kirby, et on va parler d'un pote à Kirby, puisque je vais terminer en disant, Here we go!
Non, je suis désolé, j'ai un peu foiré ton mot de la fin en rigolant, mais voilà, c'est le pote à Kirby, je savais ce qui venait, ça. Donc je t'en prie, refais-le, peut-être que certains n'ont pas entendu.
Donc, je disais donc, Here we go!
À la semaine prochaine, tout le monde, à bientôt.
Allez, ciao!